Jenny, la plus rebelle des radios.
What you call is a diamond fella. What you little boys ever come in your parents? You fellow, but you fellows get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tame like the shoe. You midsummer dreaming, the tunes ain't appealing. I'm capulet, you're money, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice getting to your CV. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not king here. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions.
Et bonsoir.
Bonsoir. Alors il est 19h passé de 3 minutes. Nous sommes le mercredi 15 avril et c'est l'heure du Canu Info.
Et nous allons commencer ce soir par parler de la même chose que tout le monde, c'est-à-dire cette fameuse loi sur le renseignement qui est en discussion actuellement à l'Assemblée nationale avec une invitée quota atypique de la Fédération FDN. Puis grève à Radio France, le mouvement est terminé officiellement demain à 13h. Dans 10 jours, c'est les présidentielles au Togo. À Malte, il y a une loi qui vient d'être adoptée sur l'identité de genre. Nous en aurons les détails tout à l'heure. Et puis ça sera l'heure de notre rubrique « Il faut que ça se sache » avec quand même l'énorme catastrophe de ce week-end. 400 migrants qui sont morts en Méditerranée. Et puis quelques nouvelles de Calais.
C'est un peu de famille. Alors voilà, nous commençons par cette loi sur le renseignement. Donc les débats autour du projet de loi renseignement ont débuté lundi à l'Assemblée nationale, en procédure accélérée jusqu'à demain jeudi. Et fait suffisamment rare pour être mentionné, le Premier ministre est venu en personne présenter ce projet de loi devant l'Assemblée, qui fait beaucoup débat depuis sa première mouture présentée devant le Conseil des ministres le 19 mars. Les critiques pleuvent aussi du côté des acteurs du numérique et 7 hébergeurs de données informatiques français, dont les deux principaux, OVH et Gandhi, ont affirmé la semaine dernière, le 9 avril, que le projet de loi sur le renseignement les poussera à l'exil pour ne pas perdre leurs clients. Donc une pression au niveau économique sur le gouvernement, mais des pressions également au niveau des libertés individuelles de la part d'organisations de défense des droits humains. Donc voilà, pour dire grossièrement. Et nous avions nommé la semaine dernière donc ce projet de loi. Et aujourd'hui, donc nous avons invité Kota Atypique, donc qui est bénévole active à la Quadrature du Net et vice-présidente de la Fédération FDN, qui est un fournisseur d'accès à Internet associatif, pour comprendre mieux les différents enjeux de cette loi renseignement. Donc bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tout d'abord, tu peux nous expliquer plus précisément ce que contient ce projet de loi renseignement, si désiré par l'exécutif ?
Alors juste une précision, on n'est pas un fournisseur d'accès à Internet, on est une fédération de fournisseurs d'accès à Internet, on est 28. Pour répondre à ta question, ce que contient ce projet de loi en fait, alors on dit que c'est une loi pour le terrorisme, pour lutter contre le terrorisme. Et c'est une première chose qu'il faut noter, c'est que c'est pas vrai. C'est une loi sur le renseignement. C'est une loi pour améliorer le renseignement. C'est-à-dire le renseignement, ça concerne, bien sûr, ça concerne le terrorisme, mais ça concerne aussi le secret des affaires. Ça concerne d'autres domaines, des domaines économiques, des domaines politiques qui sont pas du tout le domaine du renseignement, le domaine du terrorisme, pardon. Je me perds moi-même. Et du coup, on axe sur le terrorisme. En fait, beaucoup, beaucoup d'autres volets sont abordés dans cette loi qui ne sont pas des volets du terrorisme, en fait. Donc c'est un gros paquet de législatif qui vise à encadrer certaines mesures de renseignement qui jusqu'ici étaient, je cite, « à l'égal », c'est-à-dire en dehors du cadre légal. Et ça vise à étendre un certain nombre de pouvoirs des organismes de renseignement en France sur ce qu'ils pourront faire, ce qu'ils pourront surveiller. Voilà.
Mais quand tu dis ça va encadrer de manière légale, quelles sont les pratiques qui étaient entre guillemets illégales et qui vont être prises, qui vont être maintenant mises en œuvre légalement?
Alors je ne connais pas tout le projet de loi par cœur, ce qui est long d'habitude. Par exemple, dans les pratiques qui sont encadrées maintenant par ce projet de loi, dont on propose l'encadrement dans ce projet de loi. Il y a typiquement la pose de ce qu'on appelle les MC catchers, c'est des trucs qui captent les communications téléphoniques dans certains endroits. On a la pose d'équipements qui permettront de surveiller le trafic internet. On a la pose de micros, enfin ça on savait déjà. En fait, tout ce qui se faisait jusqu'ici de manière plus ou moins légale, maintenant est censé être encadré. Donc c'est pas pire, c'est toujours mieux d'avoir un peu plus d'encadrement et d'avoir un peu plus, de savoir un peu plus où est-ce qu'on met les pieds quand on parle de renseignement, c'est toujours plus agréable. Le problème de cette loi, c'est qu'elle donne des pouvoirs à l'exécutif qui sont pas normaux dans une démocratie.
Mais ça va aussi pour les enquêtes de police faciliter, parce que j'avais lu que ça. D'abord, on devait demander là, ce qui se passe en ce moment, c'est que pour toute écoute ou pose de GPS, etc., on doit demander l'accord à un juge,
oui,
ou au procureur, et que là, il y aurait plus la demande à la justice. Donc la police aurait tout droit.
Oui, il n'y a pas un seul juge. En fait, il y a un juge administratif dans ce projet de loi qui apparaît comme ça de temps en temps. Je pense qu'il apparaît juste pour décorer. Mais c'est l'un des problèmes essentiels de ce projet de loi, c'est qu'il n'y a pas de juge. Donc oui, ça facilite dans le sens où maintenant ça va plus vite. Oui, ça va plus vite. Le problème, c'est que pour retirer à quelqu'un cette liberté fondamentale qui s'appelle la vie privée. C'est un droit fondamental, la vie privée. On ne peut pas vous retirer votre vie privée comme ça. C'est pas normal. Il faut quand même s'imaginer que la pose d'un micro dans la maison de quelqu'un, l'écoute systématique de son trafic internet, et ça, on va le faire à l'échelle de la population, je vous rassure, la captation de communications téléphoniques, c'est extrêmement intrusif. C'est extrêmement intrusif. Donc, ne pas avoir de juge dans la boucle qui dit ça c'est légal, ça non, ou qui peut juger de si c'est proportionné, par exemple, est-ce qu'il faut vraiment surveiller cette personne qui est, je sais pas moi, zadiste, juste parce qu'elle a été là à ce moment-là, est-ce que ça vaut le coup? C'est des vraies questions qui se posent. Et là, on a une légalisation de pratiques illégales qu'on questionne même pas, on se demande même pas si c'est bien. On se demande même pas si c'est pas trop, avec tout, enfin, la boucle administrative. Il y a un article très très bien qui est dans TV5 Monde qui explique genre tout ce projet de loi. Je pourrais vous filer les références de l'article si vous voulez. En fait, la boucle, on s'aperçoit que la boucle entre le Conseil, le nouveau Conseil, la nouvelle Commission nationale du renseignement là qui va être créée dans cette loi, et l'exécutif, en fait, elle ne fait que reboucler sur l'exécutif. C'est le Premier ministre qui a le dernier mot sur toutes ces démarches d'écoute et de surveillance qui vont être mises en place grâce à cette loi. Donc c'est hyper grave. De ne pas avoir de juge, seul le juge judiciaire peut vous retirer un droit fondamental, comme la vie privée ou comme la liberté d'expression. Seul un juge peut faire ça. Aujourd'hui, il y a un juge, il n'y a pas de juge qui pour pouvoir dire non, pour pouvoir juger de si on doit censurer ou pas un site web, la loi terrorisme de Cazeneuve, qui est arrivée il n'y a pas longtemps, contre laquelle on a fait un recours à la Fédération. Et maintenant, il n'y aura plus de juge dans la boucle pour pouvoir dire si c'est légal ou pas de surveiller quelqu'un ou de surveiller plein de gens. Parce que l'autre point de cette loi, c'est la surveillance massive et généralisée de toute la population française.
Donc c'est ça, quand tu parlais de l'extension, voilà. Mais parce qu'il est là, j'avais vu, je peux pas la citer, mais il y a des études qui ont montré que justement de généraliser, ça allait juste augmenter le nombre de suspects, mais ça allait pas du tout changer le fait qu'il y a des personnes terroristes de fait.
Alors, ce que dit le juge, l'ancien juge antiterroriste, on a un juge antiterroriste, on a des gens très, 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 vraiment, vraiment pas sérieux qui sont contre ce projet de loi, genre l'ONU, genre ce juge antiterroriste qui s'appelle Marc Trévidic. Et Marc Trévidic, ce qu'il dit, c'est qu'il dit qu'en fait, pour l'instant, on est plutôt pas mal dans la lutte antiterroriste, déjà pour commencer. On pourrait l'améliorer, mais en fait, on pourrait l'améliorer en étant plus fort. Là, le fait de surveiller de manière massive la population, effectivement, ça va juste surveiller massivement la population et ça ne va pas améliorer tant que ça le traçage des terroristes. Un terroriste, les derniers qu'on a vus, là, les renseignements, on les connaissait. il y a eu un souci plus entre le souci à mon avis était plus entre les renseignements et la police plutôt que entre les dans les renseignements tout court. Les renseignements avaient l'information. Donc renforcer quelque chose qui est déjà relativement efficace. En tout cas, le renforcer comme ça, c'est pas la bonne solution. Et là, ce que disent tous les experts en termes terroristes, en termes voilà, tous les experts, le commissaire à l'ONU sur le terrorisme aussi s'est exprimé dans cette question dans le Monde, dans une tribune au Monde de ce matin.
Des gens qui connaissent quand même.
Oui, qui connaissent et qui disent en fait, oui, c'est bien de lutter contre le terrorisme. On est tous d'accord là-dessus. C'est pas la question. Le problème, c'est que c'est pas la bonne solution. Et alors... c'est une solution dangereuse.
Pardon, mais est-ce que ces IMSI capture, c'est bien ce que j'ai compris, c'est-à-dire des gens qui se mettront par exemple au milieu de la place Bellecour et qui écouteront au hasard tous les passants pour voir s'il n'y en a pas un qui est en train de dire « Ah tiens, je vais aller déposer une bombe ».
Ouais, ouais. Non mais ça encore, c'est rien par rapport aux sondes qu'on met chez les fournisseurs d'accès à Internet pour espionner tout Internet. Hein. Ça, c'est juste un morceau de choix, mais enfin, la mesure.
Mais du coup, c'est ça en fait, une grosse partie de cette loi, c'est des sortes d'espionnage au hasard de n'importe qui pour voir si ce n'importe qui n'est pas en train de planifier
ça.
Un.
En fait, ça fonctionne exactement comme la logique de la NSA. Vous voyez qui est la NSA, vous voyez les révélations de Snowden. Bon, en gros, la logique de la NSA, c'est si tu es à deux sauts de personnes d'un suspect, alors tu es peut-être suspect. Donc, ça revient à espionner. Alors, vous savez que la théorie du petit monde, ça revient très vite à espionner tout le monde. Parce que si on considère à peu près tout le monde comme suspect, on espionne tout le monde. Et c'est exactement la même chose. Là, on est en train de faire une petite NSA en française, en fait, pour vous donner une image. Ça revient vraiment à espionner tout le monde. Alors, bien sûr, les gens, il y a deux choses que disent les politiques quand vous leur dites ça va espionner tout le monde, c'est quand même pas très très bien. Démocratiquement, on peut pas trop se permettre ça. Enfin, on est dans un état de droit encore. Enfin, on n'est pas encore dans un état policier, ça va. Enfin, et ils vous disent une chose. La première chose, c'est non, mais de toute façon, on espionne tout le monde, mais on ne récupère les données intéressantes que des vrais suspects, enfin, que des terroristes. En gros, on ne décachètera les dossiers que des terroristes. Oui, mais en attendant, vous les conservez, ces données. Et ils les conservent super longtemps. Je ne sais plus combien, mais ils les conservent super longtemps. Donc, ils les conservent. Donc, ces données, elles sont forcément soumises à un traitement. Donc, il y a bien un ordinateur quelque part qui les a dans un disque dur et qui les a traitées, qui les a computées, qui les a rangées quelque part. Donc, déjà, ça, c'est grave. Déjà, ça, c'est une atteinte à la vie privée. Ils vont vous dire que c'est les métadonnées. Donc, ce n'est pas grave, ce n'est pas le contenu.
Ah, mais alors, qu'est-ce que c'est que des métadonnées ?
Alors,
ça,
les
c'est
métadonnées...
une question que je me suis posée depuis plusieurs jours en essayant de me renseigner sur cette loi.
Alors, c'est très très simple, les métadonnées. Vous voyez un email. Alors, t'as ton email et puis t'as le contenu de l'email. Bon. Et avant ton email, en fait, c'est un email qui vient de Radio Canu et qui va à Côté Atypique. Et le sujet, c'est on t'invite à Radio Canu. Ça, c'est des métadonnées. Après, c'est le contenu du mail, donc c'est bonjour, je t'invite à Radio Canu. C'est ça les métadonnées. C'est tout. En fait, c'est les données qui parlent des données. C'est ce message a été envoyé à telle personne à tel jour, telle heure, et ça peut être cette personne a appelé son médecin, parce qu'on connaît le numéro, donc on sait que c'est son médecin. Enfin, c'est un médecin en tout cas, donc c'est certainement le sien. Pendant une heure et demie, ce jour-là.
C'est
ça
les métadonnées. C'est le travail de réseau, quoi.
Et en fait, c'est ce qui intéresse la en fait, les métadonnées, c'est hyper important et c'est hyper intrusif parce que c'est ça qui intéresse la NSA. C'est parce qu'en fait, vous pourrez reconstruire tout le réseau de quelqu'un et vraiment, vraiment, vous pouvez reconstruire j'oublie son nom, mais c'est pas grave. Il y a un expert du numérique qui dit que rien qu'avec vos métadonnées, rien qu'avec par exemple seulement 5 points GPS, on peut savoir qui vous êtes. On peut vous identifier personnellement, avec juste 5 points GPS. Ça identifie votre niveau de vie, ça identifie votre milieu, parce qu'on sait avec qui vous traînez très vite. Ça identifie ce que vous faites, ça vous identifie dans quel bar vous allez. Ça identifie tellement de choses sur vous, qu'en fait, on n'a même pas besoin de savoir le contenu des données, en fait. Et c'est très facile à récupérer, les métadonnées, parce que typiquement, dans un mail, elles sont obligées de traîner dehors, parce que sinon, il faut bien que les mails arrivent au bon endroit. On voit toujours l'adresse sur l'enveloppe, hein, voilà. Ça permet de pas ouvrir les enveloppes, donc ça permet de pas s'embêter à déchiffrer des données, parce que c'est des données qui passent en général en clair. Et en fait, quand ils vous disent que c'est pas intrusif, parce que c'est pas le contenu des messages, ils sont faux. C'est extrêmement intrusif déjà les métadonnées. Et c'est l'argument de la NSA. Enfin, il y a des arguments qui reviennent. La NSA a dit c'est contre le terrorisme, laissez-nous faire. Non, on ne compute pas les données de tous les Américains. Tu parles. Ils nous ont dit aussi, la NSA, oui, c'est les métadonnées, vous inquiétez pas, c'est pas intrusif. Tu parles. Enfin, c'est vraiment le même argumentaire. Et la deuxième chose qu'ils vont vous dire aussi, c'est qu'il y a des garde-fous dans cette loi. Ah oui, il y a le Conseil national du renseignement, machin, j'ai oublié des lettres. Alors, cette commission nationale-là, elle a un pouvoir uniquement consultatif. Et si elle veut dire non, c'est à l'unanimité. Dedans, il y a effectivement un juge administratif.
Alors attends, elle a un pouvoir consultatif à propos de quoi ?
À propos des écoutes.
Pour quoi ?
On lui demande son avis pour les écoutes.
Pour chaque écoute qu'on va commencer.
Alors je ne sais pas si c'est pour chaque écoute, mais en tout cas, on peut lui demander son avis. J'ai un doute sur
ça,
la procédure.
C'est sûrement un recours que tu peux faire.
Tu peux faire un recours aussi, oui. Mais il y a aussi une procédure de recours.
Oui, mais en l'occurrence, cette commission, elle est censée être avertie au moment où on va lancer l'écoute.
Alors, je
crois... Parce que bien sûr que le recours de la personne qui est sur écoute, il faut d'abord qu'elle sache qu'elle est sur écoute.
C'est aussi l'un des nombreux problèmes, c'est qu'on parle d'une surveillance, typiquement. La pose de boîte noire chez les fournisseurs d'accès Internet, c'est un truc qui... Alors, pour les fournisseurs d'accès Internet le savent, mais un abonné ne peut pas le savoir. Sauf dans les fournisseurs d'accès Internet associatifs, où on le sait parce qu'on est tous notre propre FAI et qu'on est forcément au courant. Ce qui pose un problème, du coup, on devient schizophrène si on pose des boîtes noires chez nous. Un problème. Donc, c'est vrai qu'on est contre. Donc, non, bon, c'est vraiment, c'est ça, c'est notamment le problème, c'est que vous ne pouvez pas savoir si vous êtes écouté. Et quand bien même vous saurez, il faudrait que vous fassiez un recours à une instance qui est essentiellement consultative et contre laquelle le Premier ministre a toujours le dernier mot. En gros, bon, les garde-fous sont vraiment, vraiment pas à l'échelle des problèmes. Vraiment pas. Donc oui, il y a des garde-fous, mais enfin,
ça ils sont là pour rassurer et pour donner l'impression de qu'on a des recours, qu'on est en démocratie, que des gens surveillent.
C'est vraiment un petit vernis démocratique, mais il y a beaucoup d'amendements qui ont été déposés, notamment hier, je me souviens plus si ils ont été rejetés ou pas. Il y a beaucoup d'amendements qui ont été déposés par les quelques députés qui commencent à se motiver contre ce projet. Visant à encadrer un peu plus les garde-fous. Quoi.
Justement, y en a un que j'ai trouvé aujourd'hui, un amendement qui a été refusé hier contre l'avis de Christine Taubira par rapport à la tôle. Donc, et elle proposait d'exclure l'administration pénitentiaire de la communauté du renseignement.
Oui.
Et ça a été refusé. Et du coup, ça va... Concrètement, ça veut dire que la permission sera accordée de procéder à des enquêtes hors de tout contrôle judiciaire et que les matons vont se transformer aussi en enquêteurs de la DGSE ou de la DGSI. Notamment, oui. Voilà, oui. J'en ai trouvé un.
Alors, je connais bien que le volet numérique parce que c'est celui qui m'intéresse, hein, évidemment. J'ai un petit souci avec poser des boîtes noires dans mon FAI. Il faut savoir que pour un FAI, c'est pour ça que c'est bien de nommer la démarche de Gandhi, d'OVH, de tous ces hébergeurs qui se mobilisent contre ce projet de loi, parce qu'il y a une vraie question économique derrière. Poser une boîte noire dans un fournisseur d'accès Internet ou chez un hébergeur, c'est extrêmement coûteux. C'est des gros machins qui consomment beaucoup d'électricité, qui consomment du courant. Qui consomment de la place dans un data center. Et la place dans un data center, c'est cher. C'est des trucs qui se voient et qui sont vraiment pas agréables à installer. Ça gêne le bon fonctionnement du réseau, notamment chez un fournisseur d'accès. Enfin, c'est emmerdant, vraiment. Ça coûte cher et c'est emmerdant. Donc il y a une vraie question économique, et en plus, notamment pour des hébergeurs un peu responsables du type OVH ou du type Gandhi, qui sont des gens qui sont encore positionnés sur une espèce de responsabilité, une espèce d'honnêteté vis-à-vis de leur truc. Quand vous mettez vos données dans un cloud, vous avez envie de savoir qu'elles sont en sécurité. Quand vous vous abonnez à Internet, vous avez envie de savoir qu'on n'oubliera pas votre courrier. Si on doit ne pas prévenir les gens, parce que c'est toujours le problème, si on peut les prévenir. Si on doit, sans les prévenir, les écouter et faillir à leur confiance, c'est hyper grave et c'est effectivement un gros problème économique aussi. Donc le problème économique, il est sur deux volets. C'est qu'on perd des clients pour ces gens-là, ils perdent des clients, et c'est sûr. Et en plus, ils vont perdre de l'argent et genre beaucoup.
Mais alors attends, parce que tu dis qu'ils perdent des clients, mais est-ce que ça veut dire que les clients vont se faire héberger ailleurs et est-ce qu'il y a moyen de se faire héberger en dehors de France ou...
Ah bien sûr. Non mais alors, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, tu t'achètes un VPN et tu fais passer ton internet par une IP qui n'est pas française. Déjà, pour commencer, première chose, parmi les 28 FAI associatifs de la Fédération FDN, on est nombreux à fournir du VPN, et pas trop trop cher, donc déjà. Et la deuxième chose, c'est que oui, tu peux héberger ton cloud privé, là où tu mets, je sais pas moi, là où tu mets ton serveur mail, bah tu vas mettre ton serveur mail en dehors de France. OVH, il est très, Octave Clabat, il faut savoir qu'il est très sérieux quand il dit qu'il va se faire déménager ses serveurs. C'est quelqu'un qui est, alors je crois qu'il est polonais, c'est quelqu'un qui a vécu dans un pays où on faisait ça. Et qui sait très bien qu'est-ce que ça veut dire, une écoute. Qu'est-ce que ça veut dire, la computation systématique des données de tous les citoyens. Il sait très très bien de quoi on parle. Et il n'a pas du tout envie. Donc il sait très bien qu'il ira déménager ses serveurs, et donc OVH risque de déménager, oui, bah, en Allemagne. Oui, on peut, hein, c'est pas...
Et du coup, je voulais en revenir après sur les alternatives, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme alternative? Parce qu'il y a le réseau Tor aussi.
Il y a le réseau Tor. Alors, Lunar a fait une intervention. Il y a eu une table ronde, il y a eu plusieurs tables rondes à Paris la semaine dernière sur la question de ce projet de loi, notamment une chez Mozilla, Mozilla Paris, où sont intervenus des députés, Benjamin Bayard, notre président, enfin plein de gens intéressants. Le député explique que bon, ça va permettre de traquer mieux les terroristes, et Luna intervient en disant que oui, mais ils connaissent déjà Tor en fait. Donc on en revient à la même question, ce sera pas plus efficace. Oui, ils connaissent déjà Tor, ils savent déjà se protéger, ils savent déjà qu'ils sont surveillés. Enfin, c'est juste les gens qui sont pas surveillés, qui se croient pas surveillés, qui vont être surveillés, c'est tout.
Et tu peux nous expliquer en termes précis ce que c'est Tor? Oui.
Alors Tor, en gros, c'est un machin qui anonymise entre guillemets votre connexion. C'est-à-dire que il fait passer votre connexion par plusieurs points. Donc il va faire la passe. Par exemple, vous êtes en France, il va passer par dans un même laps de temps, par l'Italie, la Pologne, l'Islande et, je sais pas moi, l'Australie. Ce qui fait qu'on ne peut pas savoir d'où vous venez et où vous arrivez. Ça passe par tellement d'endroits différents tout le temps que du coup, on ne peut pas savoir à quel pays ou à quel endroit appartient votre IP. Donc, c'est une sorte de VPN amélioré, en gros, quoi. C'est avec du chiffrement au-dessus, je crois. Mais voilà, c'est ce qui ça permet de faire, c'est d'anonymiser votre connexion, qu'on ne puisse pas les relier, votre IP, à votre identité.
Et donc, on peut facilement télécharger sur Internet Tor, qui va s'ouvrir. En gros, c'est un Mozilla qui va s'ouvrir avec Tor installé dessus par défaut.
Alors, Tor, tu peux l'installer sur ta machine, tu peux l'installer pour toutes tes connexions sortantes. Par exemple, si tu veux faire passer ton mail dedans, tu peux faire passer ton mail dedans. Si tu veux faire passer, toute ta connexion Internet dedans. Ça va être un peu lent, par contre. Mais tu peux juste, par exemple, le mettre dans ton Mozilla Firefox, effectivement. Il y a un petit plugin qui permet de discuter avec le Tor que tu as installé sur ta machine. Et ça marche.
Et sinon, aussi, il y a le HTTPS. Du coup, à partir du moment où il y a le S, personne ne peut regarder.
Oui, HTTPS, ça sécurise beaucoup. En fait, ce que ça fait, c'est que ça sécurise la connexion entre toi et le serveur web qui te donne la page. Donc, c'est entre moi et le serveur web de la quadrature.net. Je sais que la connexion est chiffrée, donc personne ne peut regarder quand je discute avec ce serveur web. Maintenant, j'ai aucune certitude technique, parce que je suis pas experte non plus. J'ai aucune certitude technique sur le fait que les métadonnées soient... Enfin, on va quand même savoir quoi tu veux, que tu as demandé la quadrature.net, a priori.
Ah, mais c'était ça ma question. Est-ce que les métadonnées, elles étaient chiffrées?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, l'IETF, c'est le gros machin, c'est la grosse troupe d'ingénieurs qui sont vraiment au cœur de l'Internet et qui font toutes les spécifications générales d'Internet pour que ça marche, pour améliorer les services, parce qu'évidemment, les choses évoluent quand même un peu. Hein. Et l'IETF est en train de travailler sur un Internet plus chiffré, où justement, les métadonnées n'apparaîtraient pas. Donc c'est pas encore pour tout de suite, mais c'est une question que travaillent vraiment très sérieusement les ingénieurs d'Internet aujourd'hui, parce que Snowden a soulevé des vrais loups vraiment intéressants sur... on pensait pas qu'on pouvait espionner les métadonnées, que ça donnait ça, quoi.
Et alors, le temps file, et j'avais quand même d'autres questions. Est-ce que tu peux nous parler là des différentes campagnes de pression qui ont été mises en place donc sur les députés par différents acteurs du monde numérique?
Oui. Alors, la quadrature.net. Donc la quadrature du net, elle fait comme d'habitude. Il faut savoir que c'est une boîte à outils. La quadrature du net, vous, quand vous utilisez un outil de la quadrature du net, c'est parce que vous êtes un citoyen inquiet et que vous allez appeler, en tant que citoyen inquiet, un député. On a un outil pour ça qui s'appelle le Pifone. Il suffit juste, pour l'utiliser, il suffit juste d'aller sur le site sous-surveillance.fr avec un tiret entre sous et surveillance. Et vous cliquez sur un député qui n'est pas content et qui est pour la loi. Et vous recliquez et ça vous appelle et vous l'avez au téléphone.
Et vous avez pu faire beaucoup d'appels comme ça.
Alors,
la semaine dernière.
Il faut savoir qu'on est en procédure d'urgence, donc ça veut dire que on a eu à peu près genre une semaine et demie pour se retourner, donc pour organiser la campagne et pour la commencer, ce qui est extrêmement court, ce qui est complètement déloyal. Cette procédure d'urgence, c'est une atteinte au débat démocratique genre majeur. On ne peut pas discuter de cette loi. Donc on a essayé, il faut savoir qu'il y avait la loi santé en même temps, donc ça n'a pas été évident. Là, on commence à se rendre compte que les choses, le vent tourne un petit peu. Il y a certains députés qui commencent à prendre position contre de manière extrêmement forte. Il y a plusieurs personnes, notamment à l'UMP. Alors bizarrement, c'est l'UMP, la droite dure, qui sont les plus, qui sont malheureusement les plus au point sur le dossier et qui commencent à vraiment dire que ça ne marche pas et que ça ne... On commence à dire qu'il y a des problèmes de liberté fondamentale, enfin, qui ont un discours de gauche, en gros. Ils disent, oui, il y a des problèmes de liberté fondamentale. Là, on ne peut pas surveiller les gens. Et c'est la droite dure qui défend ça. Donc j'ai un problème. Au PS, là, le dernier article que j'ai lu avant de partir, avant de vous rejoindre, c'était un député PS qui annonçait que on pense que la fin justifie les moyens, donc on ne grogne pas trop en interne au PS. Et puis on se dit que on espère que ça ne tombera pas dans des mains d'un régime plus autoritaire. Genre, on croise les doigts. Genre, tout va bien. Donc c'est un peu difficile de les mobiliser, mais ça commence à s'organiser. On va voir si ça peut vraiment... Mais on a plus d'espoir de la part de l'UMP que du PS.
Et du coup, sur les pressions que là vous faites, vous avez l'impression que voilà, les députés, ils ont quand même de leur téléphoner, de faire...
Ça marche toujours, parce qu'il faut savoir qu'un téléphone qui sonne toute la journée et une boîte mail remplie de milliers de mails... Ça fait un effet de pression. Et surtout quand c'est des citoyens qui appellent chacun, en disant chacun avec leurs mots à eux, parce que le but c'est que ce soit vos mots à vous, qui disent « je suis inquiet, il y a un problème », ça finit par faire tilt quelque part. Après il y a les députés, il y a des députés qui vont ne jamais déroger de leur avis, ou de l'avis de leur groupe, parce que ils y comprennent rien, ou ils sont carrément pour. Il y en a un, notamment, qui s'appelle Eduardo Rian Cipel, qui est tellement pour que ce n'est pas supportable. Donc il y en a qui vont... Mais voilà, ça marche toujours. Malheureusement, là, on n'a pas assez de temps pour créer une pression qui soit la plus efficace possible. Si on avait plus de temps, ça marcherait mieux.
Parce qu'il y a une procédure donc, d'urgence, c'est passé en accéléré. On est dans le contexte post-Charlie, le ministre l'a présenté lui-même, et là on pourrait croire qu'il y a quand même un risque pour qu'il vote cette loi dans l'urgence.
Alors, c'est pas compliqué, là, l'Assemblée ça va se finir demain, la reprise au Sénat c'est le 5 mai, et pareil ça va être une lecture extrêmement courte. Donc on espère que les sénateurs seront plus réveillés que les députés. Il y a un risque non nul que cette loi soit votée. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il y a plusieurs choses qui vont changer. On va essayer de faire sortir cette histoire de boîte noire de la loi quand même, parce que en fait, après, ce qui va se passer, c'est on va essayer de l'amender un maximum dans cette procédure, notamment faire sortir cette histoire de boîte noire. D'autres choses comme le contrôle, qui est pas assez poilu, quoi. Il y a pas assez de contrôle. Deux trois trucs, parce qu'il y a pas que les boîtes noires. Les boîtes noires nous mobilisent beaucoup et nous inquiètent beaucoup, mais en fait, il faut lire tout le projet de loi et tout le projet de loi est miné. Voilà, et une fois que ce sera voté, parce que ça risque de l'être, après il va falloir faire des recours au Conseil constitutionnel ou au Conseil d'État, enfin des recours au Conseil qui vont bien. Ça veut dire des procédures juridiques longues dès que le décret soit passé.
Quoi ? Au moins 3 ans ?
Non, oui, enfin. Alors, t'as ton décret qui passe. En fait, pour faire un recours, c'est que tu fais des recours contre un décret, t'as un décret qui passe. Et là, t'as genre 3 mois pour dire au Conseil d'État, pour le Conseil d'État, c'est ça en tout cas, parce que celui qu'on a fait là, c'était pour le Conseil d'État. T'as 3 mois pour dire, je crois, 3 semaines pour dire au Conseil d'État, hey, il y a un problème. Tiens, je t'envoie un gros mémoire de 50 pages pour te dire qu'il y a un problème. Et pour détailler tous les problèmes en termes juridiques. Et c'est un travail de longue haleine, c'est pas marrant à faire. À la Fédération FDN, en collaboration avec la Quadrature du Net et FDN, on a fait de recours contre la loi Cazeneuve, la LPM et la LOPCI. Donc les deux décrets, on a fait deux recours, un contre LPM et un contre l'OPCI et Cazeneuve. Et c'est des démarches, on ira devant le Conseil constitutionnel s'il le faut, enfin, c'est une loi qui ne peut pas passer comme ça. Maintenant, avec cette espèce d'engouement et l'espèce d'apathie des députés, enfin, c'est incroyable, ils sont 10 dans l'hémicycle là. Pendant qu'on parle, ils sont 10 dans l'hémicycle. C'est incroyable. Donc avec cette apathie là de députés, oui, ça risque de passer. Et là, après, ce qui va se passer, c'est les conséquences qu'on va en tirer, c'est les gens qui vont déménager, c'est tout ce qui va se passer après. On va continuer à réagir après, bien sûr, mais oui, c'est inquiétant. C'était la question. Oui, c'est très inquiétant, et oui, c'est un risque que ça passe non nul. Et le risque qui est marrant, c'est que on ne sait pas trop ce qui va nous attendre en 2017, mais ça risque de ne pas être drôle. Je pense que on ne va pas vers le meilleur, là. On ne va vraiment pas vers le meilleur.
Eh ben alors, merci pour nous avoir expliqué en tout cas un bout de la loi sur le renseignement.
Merci de rien.
Et puis là, comme l'heure tourne, on va continuer notre Canu Info. Merci d'être venu.
Pas de soucis. Merci.
Et bien maintenant, on va filer du côté de Radio France. Radio France où la grève semble bien terminée. Alors, en réalité, elle est terminée officiellement demain à 13h. Le dernier préavis court jusqu'à demain à 13h. Mais dans la pratique, elle est terminée. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Qu'est-ce qui s'est passé en gros depuis la semaine dernière? Eh bien, c'est que le ministère, à l'écoute sans doute du Canu Info de mercredi dernier, a fini par nommer un médiateur. Donc il a été nommé jeudi ou vendredi, je ne sais plus, un certain Dominique Jean Charrier. Et alors qui c'est ce Dominique Jean Charrier? Bon, c'est plus ou moins un pro du cassage de grève. C'est par exemple le gars qui avait réalisé la fusion ANPE-ACEDIC pour donner Pôle emploi. Voilà, c'est ce genre de bonhomme-là. Et donc Dominique Jean Charrier, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même bossé tout le week-end. Et il a rencontré les syndicalistes, il a rencontré tout le monde. À ce moment-là, il a beaucoup été dans l'empathie, il a beaucoup dit aux gens qui comprenaient tout à fait leurs problèmes, qu'il leur donnait raison, que c'était terrible ce qui leur arrivait, tout ça. Et puis, à la fin du week-end, il a pondu un petit texte qui était en gros ses conclusions. Ce texte, ses conclusions et ses suggestions pour l'avenir. Bon, qu'est-ce qu'il y avait dans ce texte? Il y avait exactement ce que Mathieu Gallet avait accordé 15 jours plus tôt, de toute façon, c'est-à-dire exactement zéro avancée, mais tout ça entouré d'un vocabulaire plus compréhensif. Mais bon, c'était vraiment une histoire de vocabulaire, dans le contenu, vraiment, il n'y avait que dalle. Et puis il a dit, donc toujours Dominique Jean Charrier, il a dit, maintenant, soit on travaille sur la base de mon texte, et je veux bien rester pour continuer à épauler le processus, soit mon texte est refusé, dans ce cas-là, je me casse. Lundi, l'Assemblée générale des grévistes a refusé le texte à une écrasante majorité, a dit que ça marchait pas, quoi, qu'il voulait un meilleur compromis, qu'il voulait que la médiation continue, mais en tout cas qu'il voulait pas une sorte d'ultimatum comme ça de la part du médiateur, qui voulait pouvoir continuer à avancer, parce que de toute façon, là, en l'occurrence, il y avait zéro avancée. Bon, notre Dominique Jean Charrier a refusé. Il a dit non, mais si vous voulez pas mon texte, tant pis, ciao. La grève a été revotée. Et puis, donc ça, c'était lundi après-midi. Et puis lundi soir, Fleur Pellerin, ministre de la Culture, vient à la maison de la radio. Là, elle se réunit avec l'intersyndicale. L'intersyndicale, attention, c'est pas du tout la même chose que l'Assemblée Générale, c'est les boss des syndicats. L'intersyndicale, Fleur Pellerin, et puis quelques représentants de la direction. Alors, elle dit, maintenant il va falloir reprendre le boulot, ça fait 26 jours maintenant, c'est trop, les auditeurs vous attendent. Bon voilà, en réalité on ne sait pas exactement ce qu'elle dit, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé pendant cette réunion qui a duré une vingtaine de minutes. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à la sortie de la réunion, tous les syndicalistes, eux, ont dit « Ah oui, tiens, en fait, on n'aurait qu'à reprendre le boulot plutôt ». Alors que du coup, il n'y avait aucune avancée par rapport à l'Assemblée Générale de quelques heures plus tôt. L'Assemblée Générale où du coup, voilà. Donc mardi, hier à nouveau Assemblée Générale, les syndicats arrivent en disant « bon ben bah voilà, bah maintenant il va falloir qu'on reprenne le boulot ». L'Assemblée Générale, du coup, 500 personnes en Assemblée Générale qui sont pas forcément syndiquées, et en tout cas qui, même si elles sont syndiquées, sont pas, font pas partie des permanents. 500 personnes ont sifflé les syndicats, il y a eu un peu de scandale, il y a eu le délégué de Sud a failli se faire péter la gueule par les gens de la Sécu qui eux sont en grève depuis le début, et qui ont vraiment considéré que là, il trahissait. Parce qu'il trahissait, c'est ça. L'Assemblée Générale a réclamé un vote. Alors bien sûr, l'intersyndicale, dès le départ, avait dit « de toute façon, c'est pas nous qui déciderons de la fin du mouvement quand elle arrivera. Ça sera l'Assemblée Générale et nous, on ne fera que suivre l'avis de l'Assemblée Générale ». Bon là, en l'occurrence, les syndicats, 4 syndicats sur les 5, ont dit « non mais en fait, nous, on retire notre préavis ». L'Assemblée Générale, elle, a réclamé un vote. Au départ, l'intersyndicale était juste opposé au fait que la poursuite du mouvement soit votée. Ils ont dit non, mais c'est nous là, on a parlé avec la ministre, on décide qu'il faut arrêter, quoi. Et en fait, on ne sait pas pourquoi ils ont décidé ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé pendant cette réunion de 20 minutes. Et ce fameux délégué de Sud qui a failli se faire péter la gueule était plutôt quelqu'un qui avait été un peu charismatique dans le mouvement, un peu passionné, un peu radical. Mais là, bon, voilà, non, lui, comme les autres, hein, des autres syndicats, il voulait reprendre le boulot. Donc finalement, l'Assemblée Générale exige qu'il y ait quand même un vote. Le vote a lieu, 500 personnes présentes, il y a eu 70 personnes contre la poursuite du mouvement, une vingtaine d'abstentions, ce qui nous laisse largement 400 personnes qui étaient pour la poursuite du mouvement. Et ben, ça n'a pas empêché que les syndicats ont levé tous les préavis, sauf la CGT. La CGT qui a maintenu ça. Bon, alors vraisemblablement, c'est un peu des histoires de stratégie. Bon, la CGT, de toute façon, elle voyait en l'occurrence que c'était largement plus populaire de vouloir continuer le mouvement. En sachant qu'elle le ferait seule, elle savait que de toute façon, le mouvement continuerait pas très très longtemps. Et voir, d'après la personne que j'ai eue tout à l'heure au téléphone, si ça se trouve, les syndicats étaient même d'accord entre eux pour qu'il y en ait un qui vote pas la reprise tout de suite. En tout cas, l'indice de ça, c'est que de toute façon, pour la suite des opérations, maintenant, il y a aucune brouille entre les syndicats, ils étaient fiers d'être unis pendant toute la durée du conflit, mais là, ils restent complètement unis malgré le fait qu'il y en ait un qui n'ait pas voulu la reprise de la grève et les autres, oui.
En tout cas, il y a rien d'étonnant là-dedans. Ça se passe souvent quand même comme ça, ou quand les syndicats décident d'arrêter la grève. Il faut un mouvement autonome assez fort pour que ça se continue.
Oui, avec
les syndicats et souvent ils le décident un peu d'une manière inexpliquée là où la direction n'a jamais cédé.
Tout à fait, c'est effectivement souvent comme ça pour un certain nombre de grèves. Là, la différence pour cette grève-là, c'est que ça a été une grève qui a été historique, non pas du tout uniquement par sa durée, mais aussi par ce qu'elle a suscité d'assemblée générale, de discussion, de participation effective de tous les personnels, de la femme de ménage aux journalistes de l'antenne, à réfléchir à ce que c'est Radio France, à ce que c'est la mission de la radio, à avoir vraiment des énormes réflexions de fond qui sont pas toujours massivement dans les grèves le truc principal, quoi. Et là, en l'occurrence, il y a eu ça très très fort. Et voilà, quoi, c'est ce qui fait aussi que la personne que j'avais tout à l'heure au téléphone me disait que la victoire, c'était en soi ce qui s'était passé pendant la grève, c'était une sorte de décloisonnement entre les différents personnels et vraiment hein, des manards aux stars, quoi. Bon voilà, alors finalement si on fait le bilan, qu'est-ce qui a été gagné quand même qu'est-ce qu'il y a dans le fameux texte du médiateur qui nous fait avancer par rapport au moment où les gens se sont mis en grève? Alors il y a la promesse qu'il n'y aura pas d'externalisation. L'externalisation, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est le fait de faire par des boîtes privées du boulot qui jusque-là était fait par les gens de la radio, bon, typiquement le ménage. Alors il y a la promesse qu'il n'y aura pas d'externalisation. En réalité, cette externalisation est déjà largement commencée, ce qui fait que quand on dit qu'il n'y en aura pas, ça veut dire qu'il n'y en aura pas plus. Et de toute façon, ça va être des trucs qui vont être possibles à faire sans les faire, à faire un petit peu, à faire à moitié, à faire petit à petit, et finalement, il y aura externalisation pareil. L'arrêt de la verticalisation des métiers, qui était une grosse revendication, là c'est l'histoire de savoir si les techniciens sont rattachés à une chaîne, enfin voilà. La grosse défaite, c'est la défaite sur France Bleu, qui est la chaîne de radio locale de Radio France, Et France Bleu qui tenait à avoir à garder chaque chaîne de France Bleu à garder leur identité locale. Et là en fait ils vont avoir des programmes rassemblés du coup par grosses régions voire nationaux. Et ça du coup les animateurs de France Bleu sont furieux contre les Parisiens et entre autres sont furieux contre la reprise du boulot des Parisiens parce qu'ils se sentent complètement abandonnés là-dessus. Bien sûr qui est le plus furieux, c'est les Basques. Et enfin, sur la dernière grosse revendication qui était celle des orchestres de Radio France, donc il y avait deux orchestres à Radio France, ça coûtait bien trop cher. Et finalement, les deux orchestres vont être gardés, juste ils vont être énormément réduits, chacun des deux. Du coup, il n'y a pas un orchestre en moins, il y a juste plein de musiciens en moins. Voilà. Et puis sur l'emploi, hein, parce que les gens qui ont essayé d'écouter n'importe quelle chaîne de Radio France dans les dernières semaines ont bien su que la grève portait sur l'emploi à Radio France. Et ben là, rien de gagné, à part la formulation de la manière dont les gens vont partir à la retraite et pas être remplacés, etc. Voilà. Oh oui, c'est encore moi. Alors, au Togo, c'est dans 10 jours qu'aura lieu l'élection présidentielle. Et donc, là, on va s'appuyer surtout sur ce que raconte Survie. Parce que sur ce qui se passe précisément au Togo, sur la politique interne du Togo, eh ben, d'un côté, ça regarde un peu les Togolais, mais Survie s'intéresse beaucoup à la manière dont la France joue sur la politique interne du Togo. Et donc, que nous dit Survie ? Elle nous dit que le Togo est un des pays emblématiques de la France-Afrique. Et que... Et donc voilà, qu'en l'occurrence, il va s'agir d'un scrutin à un tour, qu'il n'y a pas de limitation des mandats au Togo, c'est-à-dire que le président peut se présenter autant de fois qu'il veut, jusqu'à l'âge qu'il veut, que l'appareil sécuritaire est bien en place, que les responsables des différentes répressions sont toujours assurés de l'impunité, que tous les ingrédients sont donc réunis pour un nouveau hold-up électoral dans ce petit pays. La population togolaise, excédée par l'incurie des pouvoirs publics, est-elle condamnée à rester prisonnière du clan Eyadema ? Installée et soutenue politiquement, économiquement et surtout militairement par la France depuis près de 50 ans, cette famille a à son actif des décennies de répression féroce et a fait du Togo un des pays les plus pauvres du monde. À la mort du dictateur Eyadema père, la tentative de donner un vernis démocratique à la prise de pouvoir par son fils, donc Faure Gnassingbé Eyadema, s'était soldée par un bilan catastrophique après l'élection. Donc ça, c'était il y a 10 ans, jour pour jour, où l'armée était notamment intervenue dans les bureaux de vote pour voler les urnes. Et puis après, il y avait eu un peu des manifs pour protester là contre. L'armée avait tiré sur la foule à balles réelles. Et donc, ça avait fait 500 à 800 morts. C'est quand même pas n'importe quoi. Et provoqué l'exode de plusieurs dizaines de milliers de réfugiés. L'impunité dont jouissent les responsables militaires togolais n'empêche pas la France, toujours liée au Togo par un accord de défense qui a été renouvelé encore en 2011. Donc, n'empêche pas la France de maintenir sa coopération sécuritaire. Les derniers chiffres disponibles indiquent que 14 coopérants militaires français étaient encore détachés au sein de l'armée togolaise en 2011 et aucune réduction n'a été annoncée par l'exécutif socialiste depuis 2012. Bah oui, de toute façon, on sait que les présidents français, depuis que le mot de France-Afrique a été popularisé par l'association Survie à la fin des années 90, on sait que tous les présidents les uns après les autres sont arrivés en disant maintenant avec moi la France-Afrique, c'est terminé, et on sait qu'ils ont tous très bien montré qu'ils n'ont pas du tout fait ça, quoi. Donc en 2013, Faure Gnassingbé Eyadema était reçu à l'Elysée par un François Hollande qui vantait l'engagement du Togo aux côtés de la France et du Mali et la coopération économique au Mali, et qui vantait la coopération économique entre les deux pays, qui n'a surtout pas évoqué les actes de répression qui avaient été commis au Togo cette même année. Un an plus tard, c'est Vincent Bolloré qui inaugurait le troisième quai du port autonome de Lomé, un chantier pharaonique obtenu par le groupe Bolloré avec l'appui diplomatique des autorités françaises. Et les discours tenus par François Hollande lors du dernier sommet de l'Organisation internationale de la francophonie à Dakar, c'était en novembre 2014, donc il n'y a pas très longtemps, semblent également en parfait décalage avec le silence actuel de la diplomatie française sur les conditions de préparation de cette mascarade électorale à laquelle participent les experts de l'Organisation de la francophonie à la demande du régime.
identité de genre. Donc Malte a adopté une loi. Donc cette nouvelle loi autorise le changement d'état civil sur simple déclaration. Elle a été adoptée le mercredi 1er avril et ce n'est pas une farce. Et elle devrait être rapidement promulguée par la présidente de Malte. Donc cette loi qui s'appelle le GIGESC, c'est le Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristic Act, votée tant par la majorité que par l'opposition. Donc elle a suscité une acceptation globale, vise à protéger donc les droits des personnes trans, intersexes et fluides, en particulier le droit à l'autodétermination de son identité. Donc je cite, toute personne citoyenne de Malte a droit à la reconnaissance de son identité de genre, le développement libre de sa personne selon son identité de genre, être traité en accord avec son identité de genre et en particulier être identifié de cette façon dans les documents établissant son identité et l'intégrité corporelle et l'autonomie physique. Donc ça c'est le texte de loi. Donc ce n'est qu'une loi dans un état de droit, mais ça va faciliter donc les démarches pour les personnes trans de changer d'état civil. Mais espérons aussi que cette loi permettra à changer les pratiques des médecins vis-à-vis des personnes intersexes. Donc rappelons que les personnes intersexes se voient subir des opérations lourdes dès leur premier mois d'existence, des opérations dites de réassignation sexuelle qui engendrent de lourdes séquelles psychologiques. Et notamment énormément de personnes intersexes qui se sont fait attribuer de force un genre à leur naissance, changent de genre à leur adolescence. Donc mieux vaut laisser les personnes choisir, laisser un flou qui leur permettra à l'adolescence de choisir elles-mêmes et de ne pas subir un certain nombre d'opérations vraiment complètement... traumatisante.
Ça commence à en faire quelques-uns des pays pour, dans lesquels on peut changer de genre légal relativement facilement. Et bizarrement, c'est jamais les pays qui sont à la pointe des libertés individuelles.
Il y a la Nouvelle-Zélande, notamment.
C'est pas l'Europe et les États-Unis, quoi. Ouais, il y a l'Inde aussi, on en avait parlé il y a quelques mois.
Oui, et c'est ça. Et puis Malte, dans l'article, je l'ai enlevé, mais il disait c'est un pays catholique, très catholique, avec religion officielle, etc. Et ben, ça leur empêche pas de voter ça. Voilà.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info, contre la machine à expulser.
Alors environ 400 migrants seraient morts noyés en tentant de gagner l'Italie, c'était sans doute dimanche. Donc tout ça c'est des naufrages bien sûr, embarcation de fortune bien sûr, dimanche 12 avril, Méditerranée, alors qu'ils tentaient de gagner l'Italie à partir de la Libye, en tout cas c'est ce qu'on peut déduire du récit des rescapés. Les gardes-côtes italiens ont porté secours à 42 bateaux, chargés au total sans doute de plus de 6500 migrants dimanche et lundi. Et donc ces gardes-côtes avaient annoncé lundi avoir sauvé 144 personnes. Et récupérer 9 corps après le naufrage d'une de ces embarcations. des représentants de l'Organisation internationale des migrations et aussi de cette ONG qui s'appelle Save the Children ont commencé mardi à interroger
les autres.
Hein ?
Mais pas les autres.
Ou en tout cas c'est trop tard pour les sauver, mais on commençait mardi à interroger les plus ou moins 150 survivants du naufrage, ceux qui sont arrivés dans la matinée en Italie, sans pouvoir certifier ça avait l'air compliqué de savoir si on parlait de un drame ou de plusieurs drames. En tout cas, les survivants ont assuré qu'il y avait au total 500 à 550 personnes à bord du bateau sur lequel eux étaient, et dont de nombreux jeunes. Donc voilà, 500 à 550 personnes à bord du bateau, 144 à 150 personnes qui ont été sauvées. Le calcul est vite fait, il nous reste 400 personnes qui n'ont pas été sauvées. Nous sommes en train d'enquêter pour comprendre la dynamique du naufrage, a expliqué le porte-parole de l'OIM, selon lequel les premiers éléments laissent penser que le bateau a chaviré sous l'effet du mouvement des passagers quand ils ont aperçu les secours. Ce nouveau drame porte à plus de 900 le nombre de morts enregistrés par l'OIM en Méditerranée depuis le début de l'année. On est au mois d'avril, janvier, février, mars et un petit bout du mois d'avril, 900 personnes qui sont mortes en Méditerranée pour essayer de rentrer. L'année dernière, en 2014, c'était 47 pour la même période. En tout cas, les morts enregistrés, hein, on parle bien sûr pas de tous ceux pour lesquels on l'aura jamais su, quoi. Entre-temps, c'est qu'il y avait cette espèce d'opération plus ou moins de surveillance des frontières, plus ou moins de secours qui s'appelait Mare Nostrum, qui a été remplacée par l'opération Triton. Donc Mare Nostrum, c'était un truc plus italien. Maintenant, ça a été remplacé par l'opération Triton, qui est un programme européen et qui est du coup vraiment plus du tout porté sur le secours, mais bien uniquement sur le contrôle des frontières. Et voilà, on voit ce que ça donne. Je me suis perdu. Mais en tout cas, ce que je voulais rajouter, c'est que là, on parle quand même de 900 morts en 3-4 mois. Que bien sûr, on peut dire encore les passeurs, c'est vraiment des salauds, ils embarquent les gens sur n'importe quelle embarcation. En fait, on peut aussi tellement dire que les ministres de l'Intérieur européen, les politiques européennes de migration font que les gens sont obligés de s'embarquer sur des trucs pareils, aux mains effectivement de passeurs qui à plein de moments sont vraiment des salauds, mais en tout cas que tout le pouvoir de ces passeurs leur est intégralement fourni par les politiques migratoires européennes, que là on en est donc à 900 morts qui sont intégralement à mettre à l'actif de ces politiques migratoires.
Donc, il faut que ça se sache. Alors, je vais passer directement à quelques nouvelles de Calaisie.
Attends, j'ai retrouvé le jingle.
Il faut que ça se sache.
Voilà.
Très bien. Donc, quelques nouvelles de Calaisie. Donc, à Calais, ça ne change pas. Énorme climat de tension. Donc, je rappelle, ça fait plusieurs semaines que je le rappelle, mais je me dis qu'on n'a pas forcément des auditeurs assidus. Donc, il y a un bidonville d'État qui a été mis en place. Donc c'est les squats qui ont été les flics les ont expulsés ou sont en train de les expulser, beaucoup de tension pour que tout le monde soit réuni dans ce nouveau terrain d'accueil où aucun migrant jusqu'à présent n'était allé parce que c'est une ancienne décharge et que les gens n'ont pas du tout envie d'aller s'installer sur ce terrain, ils y sont contraints et tout le monde tous les différents campements, les différents squats, tous les gens se retrouvent donc sur ce terrain et donc cette semaine les nouvelles c'est beaucoup de violence dans ce nouveau bidonville d'État. Parce que moins d'un mois après l'installation des premiers habitants, donc entasser autant de personnes dans un espace aussi hostile et dans une telle précarité aussi loin du centre-ville allait forcément déboucher sur de la violence. Et donc là, je cite un exilé soudanais qui explique la situation. Un autre squat qui n'est pas encore expulsé à Galou. Donc les Érythréens, les Soudanais, les Éthiopiens, les Afghans, tout le monde se bat. C'est tout le temps la bagarre. Donc voilà, la précarité, on le sait, engendre pas mal de violence. Et du coup, là où les gens étaient un peu regroupés dans des campements de différentes communautés, tout le monde là est ensemble et c'est grave la merde. Tout le monde, les militants, les associatifs avaient prévenu qu'il fallait pas qu'il fasse ça. L'État met ça en place. Et du coup, a priori, le ministre de l'Intérieur viendrait la semaine prochaine pousser un cocorico triomphant sous le ciel calaisien. Donc les autorités exploiteront peut-être ces bagarres pour dire que les exilés sont dangereux et qu'il faut les tenir à l'écart de la population et renforcer les contrôles de police, par exemple. Ou bien ces tensions prévisibles signeront la faillite de leur politique de parquer des exilés dans un espace quadrillé par la police. Donc cette solution, la Jules Ferry, donc ce nouveau bilan d'Onville, est déjà à bout de souffle alors que de nouvelles personnes arrivent à Calais par l'Italie et les Balkans. Sinon, les expulsions des derniers campements peuvent arriver d'un jour à l'autre, donc les militants continuent à s'organiser pour empêcher les expulsions. Mais ces expulsions tardent de plus en plus. Alors Sauvons Calais, les extrêmes droites essayent de mobiliser contre les migrants et la mairie joue de l'intimidation en commençant à détruire les squats en présence des habitants, donc sous leurs yeux. Donc mercredi 8 avril, là, c'était une manifestation anti-migrants à 15h, précédée d'une manifestation de solidarité avec les exilés à 14h. Donc il y avait plus de personnes anti-migrantes que de personnes de migrants et de soutien aux migrants. Donc ça, c'est chouette. Comment ?
Non, tu viens de dire un truc qui n'avait pas l'air chouette du tout. Après, tu as dit donc ça, c'est chouette.
Ah non, il y avait moins d'anti-migrants que de migrants et personne
donc
qui soutient les migrants. Donc ça montre que l'extrême droite, quand même elle est plus présente maintenant, plus active, etc., bah, ils réunissent pas grand monde encore. Donc c'est, je sais pas, même si c'est triste, on peut être content de quelques petits trucs. Donc jeudi 9, c'était un rassemblement contre les expulsions qui avait été encore une fois improvisé depuis ces dernières semaines. Et là, la police est vraiment intervenue brutalement, a arraché les banderoles, gazé, interpellé des gens. Et donc les bulldozers, pendant ce temps, continuent leur balai autour des campements du Fort Niolet. Et les habitants du squat Galou, eux, ont essayé d'adresser une lettre à leur propriétaire pour empêcher l'expulsion. C'est un peu des bouteilles lancées à la mer, voilà. Et sinon, ce lundi, il y a eu une tentative d'occupation c'était une initiative d'associatif qui s'appelle ESSI. Donc j'ai envie de la lire parce qu'elle est quand même intéressante. ESSI, un centre d'accueil pour les personnes en exil, n'était pas la création d'un ghetto sous couvert d'un regroupement de services humanitaires déjà existants comme l'est le centre Jules Ferry. Et si les lieux de vie existants, les squats et campements n'étaient pas vidés et détruits de façon violente par les autorités? Et si on laissait aux migrants le droit à s'organiser par eux-mêmes et à prendre part aux décisions les concernant? Et si la politique de la ville de Calais envers les personnes en exil changeait de cap et faisait les parties du vivre ensemble? Et si Calais, ville de passage, devenait une ville d'accueil? Donc ça, c'est ce qu'il aurait été possible de créer dans de nombreux lieux non utilisés près du centre-ville de Calais pour accueillir des personnes en exil. C'est une occasion qui a été ratée en ce qui concerne le site de l'ancien hôpital avenue Coubertin, dont les bâtiments étaient détruits alors qu'il aurait été tout à fait possible de les utiliser. Et donc, les gens sont allés sur cette friche et ont fait cette parodie en disant, en fait, ça aurait pu vraiment être un centre d'accueil avec un vrai accueil. Et ça n'a pas été le cas. À la place, les gens ont été transférés dans ce centre Jules Ferry, à l'écart de la ville. Voilà.
Ok, et ben ce Canu Info est terminé. Il est 20h pile. Ça va être le moment de laisser la place à Idées Noires. Mais comme d'habitude, entre les infos et Idées Noires, quelques petites 30 secondes de musique.
Et merci, Kota Atypique, d'être venu nous expliquer la loi renseignement.
De rien.
Et enfin, là, on se souvient que la semaine prochaine, le mercredi, ça sera le jour où nous aurons notre rubrique Le Fil d'Ariane avec ce collectif d'avocates qui viennent parler de droit.
Et donc, n'hésitez pas à leur poser des questions aller voir sur leur blog et à...
Sur leur thématique de la semaine prochaine qui est le droit des étrangers, je crois, je sais plus, le droit des étudiants étrangers peut-être.
Le droit des étudiants étrangers. Et donc, leur adresse mail, c'est lefildariane, tout attaché, @rebellion.info.
Allez, ciao!
Ciao!